Vous écoutez France Culture.
Deuxième temps de notre histoire du cheval dans la fabrique de l'histoire à l'occasion de la sortie en librairie du deuxième tome de l'histoire de la culture équestre de Daniel Roche, historien du livre, de la mode, du costume, des choses banales et du siècle des Lumières, mais également historien donc de cette culture équestre. Il nous accompagne toute la semaine. Il a aussi transformé sa passion pour le cheval en une grande œuvre de connaissance. Hier, il nous a parlé avec Jacques Mullier des haras, de la sélection. Demain, nous discuterons avec Mathieu Flonneau du cheval en ville et jeudi, il débattra avec Patrick Boucheron du creuset italien de la culture équestre européenne. Et aujourd'hui, eh bien, nous revenons dans un documentaire sur une pratique relativement récente, l'hypophagie. Olivier Chaumel et Anne Fleury nous racontent jusqu'à 10h comment, depuis la fin du 19e siècle, s'est développée la consommation de viande de cheval dans notre pays, avec les témoignages et les analyses de Michel Beaubois, de Jean-Pierre Digard, de Carole Ferret, de François Landrieux, d'Otis Lébert, de Pierre Lepelletier, de Didier Nourisson et de François Sigaud.
On a les mêmes morceaux, on a juste un morceau nous dans le cheval qui est en plus, c'est une partie de la bête qu'on fait, une façon de couper, et qui s'appelle le tocard. C'est la seule chose qui n'existe pas dans le bœuf.
Le tocard.
Le tocard, oui, non, ça s'appelle vraiment comme ça.
C'est quoi ?
C'est un morceau entre le faux filet et le rump steak. Donc on se retrouve avec ce morceau-là, c'est la seule chose qui n'existe pas en bœuf. Sinon on a exactement les mêmes morceaux. Pareil. Madame, bonjour.
Bonjour, monsieur.
150 ?
150.
Pour un.
Selon la découpe dite parisienne, on trouve sur la face externe jambes, pavés, jumeaux nerveux, côté de surprise, macreuse, carré, surprise, trapèze, jumeaux, plat du collier, griffes.
Hypophagie.
Et sur la face interne, jambes, jumeaux nerveux, macreuse, côté, grand rond, dessus de palette, pointu, pièce parée, rhomboïde, veine grasse, petit complexus, transversaire, saignée, boute.
Avec quoi fait-on les meilleures frites, Michel Beaubois ?
La graisse de cheval.
Ça se prépare comment, la graisse de cheval, pour faire des frites ?
Comme le saindoux. C'est-à-dire, nous faisons, bien sûr, à partir de la panne, on hache à la grosse grille la panne et on la fait fondre avec un petit peu d'eau, de façon à qu'elle ne colle pas dans la marmite. Ça fait des petits rayons et la graisse, bien sûr, on la passe avec un chinois et vous avez une graisse de cheval qui fait des frites extraordinaires. Ça se fait beaucoup dans le Nord.
Il y a des millions de Français qui ne mangent pas de viande. Et chaque mois, des millions de kilogrammes de bonne viande sont livrés à l'industrie pour des usages secondaires ou même jetés à la voirie. 1856. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Lettre sur les substances alimentaires et particulièrement sur la viande de cheval.
Un enfant ne renâcle jamais à accompagner son papa ou sa maman chez le chevalin, car il sait que le boucher le gratifiera d'une tranche de saucisson, de cheval. En France, parmi les commerces dont le passant identifie instantanément l'enseigne, il y a le bureau de tabac et sa carotte rouge, la pharmacie et sa croix verte, et la boucherie chevaline. L'enseigne d'une boucherie chevaline est faite de têtes de chevaux en laiton, généralement au nombre de 3, et dont un néon rouge souligne le profil, de façon que la reconnaissance soit également possible les soirs d'hiver.
Alors, maintenant, il n'y a plus de boucherie chevaline.
Il en reste quelques-unes.
J'en connais pas. Peut-être qu'il en reste quelques-unes. Si vous avez des adresses, je suis preneur.
Je vous en donnerai.
Très bien, je suis preneur.
Le commerce de viande chevaline est codé. L'initié ne dira jamais « Pourrais-je avoir 300 grammes de viande hachée, s'il vous plaît ?» Il dira simplement « 300 » et il sera servi. Il faudra avant tout pour ça qu'il appartienne à la population hippophage, qui est nettement minoritaire ici, et inexistante dans d'autres pays, en Angleterre par exemple. Certains scandales concernant des transports de chevaux de boucherie dans des conditions épouvantables dans les années 80 et 90, ainsi que les nombreux cas de trichinose dans les mêmes années, n'ont pas contribué à augmenter les effectifs de l'hippophagie. Pendant très longtemps, personne en Occident n'a mangé de viande de cheval, sauf en cas de nécessité absolue et dans une clandestinité complète. C'est au cours de l'inventif 19e siècle que le tabou a été levé. En ce temps-là, les végétariens s'intitulaient légumistes, les protecteurs des animaux s'étiquetaient fièrement zoophiles et on regroupait sous l'appellation solipède les chevaux, ânes et mulets, auxquels on pourrait adjoindre les zèbres, émionnes et onagres, ces derniers étant peu fréquemment consommés sous nos climats. Le produit d'une ânesse et d'un étalon, c'est à remarquer, s'appelle un bardeau. Il pourra en être question plus loin.
Veuillez écouter Paysans de France, une émission présentée par Raymond Cherrier.
Ce matin, nous ne partirons pas en voyage puisque Roger Lamy se propose d'attirer notre attention sur une manifestation parisienne, ou plus exactement, se tenant à Paris. À cet effet, sont réunis autour de notre micro M. Reuillon, président honoraire de la Fédération nationale de la boucherie hippophagique de Paris et de la Chambre syndicale de la boucherie hippophagique de Paris également, M. Bénard, président de cette même chambre syndicale, M. Val, président de la Fédération nationale de l'industrie hippophagique de France.
Qui vont évidemment nous parler du cheval de boucherie. Pour quelle raison précisément? Eh bien parce que ce matin même, au moment où nous parlons, il se produit un événement assez curieux. Les habitants de la rue Brancion, qui longe les abattoirs de Vaugirard, peuvent d'ailleurs s'en rendre compte. Ils voient arriver depuis quelque temps des camions de chevaux qui viennent participer aujourd'hui par plusieurs centaines à un concours, ou plutôt à deux compétitions. Ce matin, ce sera le concours de chevaux vivants. Il y aura en outre le concours des animaux en carcasse qui furent abattus hier. C'est la première fois que l'on organise depuis la guerre une telle manifestation. Monsieur Bénard, que voulez-vous signaler par là?
Eh bien, c'est justement, nous voulons faire un rappel des anciens, de ceux qui ont lancé la boucherie chevaline. Premièrement, le corps médical, où nous avons trouvé auprès de lui Monsieur Émile Descroix, qui a toute sa vie durant lancé et propagé la viande de cheval.
Monsieur Bénard, vous m'avez parlé tout à l'heure d'anniversaire. C'est un centenaire, un cinquantenaire?
C'est un cinquantenaire.
Un cinquantenaire? Oui. Il y a donc 50 ans seulement que la consommation du cheval de boucherie est organisée en France?
C'est-à-dire, elle existait dans le temps, mais en petite quantité. Mais officiellement, sur la place de Paris, elle a pris une extension à partir de 1904.
Et je vais prendre, deux beefsteaks hachés de 100 grammes et un de 200 grammes. Un 100 grammes, ça va peut-être pas lui faire beaucoup. On va donner un 100 grammes, un 150 et un 200.
François Landrieux, vous êtes journaliste et également président de l'Académie de la viande. Vous avez connu les abattoirs hippophagiques de Vaugirard?
Ça remonte à quelques années maintenant, je le confesse. J'ai été tueur aux abattoirs de Vaugirard, mais pas tueur aux abattoirs de chevaux, tueur aux abattoirs de porcs qui existaient à l'époque dans les années 62-63. Mais effectivement, les abattoirs de chevaux étaient tout à côté, étaient à 50 mètres. Et c'est vrai qu'il y avait ces scènes de temps en temps qu'on voit dans des films ou qu'on raconte dans les romans, les chevaux qui s'évadent de l'abattoir, qu'il faut rattraper dans la rue. Et la population des grossistes en cheval à Vaugirard était essentiellement des manouches. Et c'était des gens très importants, très, très riches, avec des grosses bagues en or.
Et des liasses de billets.
Et des liasses de billets, car naturellement, on payait en liquide, c'était pas encore l'obligation du chèque. Et c'était des gens très drôles, très amusants, et en même temps, c'était des seigneurs dans le quartier, c'était des gens très généreux. Dans ce qui est aujourd'hui le parc Georges Brassens, on se promenait avec des tabliers ensanglantés, on allait boire un Beaujolais au bar, on allait manger du roast beef de cheval à l'ail et de la côte de poulain. Enfin, c'était... Voilà, tout ça, moi, je pense, malheureusement disparu.
Aux morts de l'industrie chevaline.
Jean-Pierre Digard, nous sommes ensemble dans le 15e arrondissement de Paris.
près des quelques vestiges qui restent des abattoirs hypophagiques de Vaugirard. Et nous sommes devant un curieux monument aux morts de la Première Guerre mondiale, sur lequel on lit « Aux morts de l'industrie chevaline ».
Alors oui, les morts de l'industrie chevaline, il s'agit évidemment des hommes qui sont morts, dit le panneau, dans la Première Guerre mondiale, 14-18. L'industrie chevaline, au moment de la guerre de 14, était encore très, très jeune.
De l'autre côté se trouve le buste en bronze d'un personnage très important de l'histoire qu'on raconte. Un petit buste.
Oui, alors c'est le buste d'Émile Decroix, qui est mort en 1901, qui est né en 1821, un vétérinaire militaire. Et cet Émile Decroix s'est rendu célèbre au milieu du 19e siècle en organisant avec un autre personnage, qui était Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui était lui professeur de zoologie au Muséum national d'histoire naturelle.
Au Jardin des Plantes.
Au Jardin des Plantes, voilà. Et tous les deux se sont associés pour faire une campagne en faveur de l'hypophagie. Car à cette époque, la viande de cheval, même lorsqu'elle était interdite, car elle était longtemps interdite, ça restait une viande de survie. Et puis c'était aussi une viande qui était associée à la déchéance sociale. Par exemple, autour des ateliers d'écarissage qu'il y avait dans le nord de Paris, où étaient débités les chevaux, les cadavres de chevaux qui mouraient dans la rue et qui étaient apportés là-haut.
À Montfaucon, où se tenaient les gibets des
pendus. Voilà, c'est ça. Il y avait toute une population de marginaux qui se nourrissaient de quartiers de cheval qu'ils volaient dans les ateliers d'écarissage. Donc voilà, c'était les deux cas de consommation du cheval, déchéance sociale ou survie, cas de force majeure. Voilà. Et alors, ces deux personnages se sont associés. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui était un savant positiviste, pensait que la viande de cheval était une excellente nourriture pour nourrir le prolétariat. On était à l'époque du capitalisme triomphant, hein, deuxième moitié du 19e siècle. Donc il s'agissait de nourrir au mieux les ouvriers et les populations des villes qui augmentaient considérablement.
À partir de la constatation qu'énormément de viande de cheval se perdait tout
simplement.
Oui,
elle n'était pas utilisée.
Elle n'était pas utilisée. Voilà. Voilà.
Et alors, deuxièmement, Émile Decroix, vétérinaire militaire, qui avait vu mourir sur les champs de bataille dans des conditions atroces des tas de chevaux, et qui aussi constatait qu'à cette époque, les chevaux étaient usés jusqu'à la corde et qu'on les voyait dans les rues de Paris mourir d'épuisement sous les coups des charretiers, avait fait le calcul que si un propriétaire de cheval voulait encore tirer de l'argent d'un cheval, il avait intérêt à le maintenir en état et à l'apporter à la boucherie en bonne santé finalement.
Vous le faites comment, Otis Lebert, le pavé de cheval au gras de Panzano ?
Alors, le pavé de cheval, c'est une viande donc qui se trouve déjà dans la cuisse du cheval, qui n'a absolument pas de graisse. Donc, je le fais simplement poêler ou alors griller. Bon, pourquoi je l'accommode à l'heure actuelle de gras de Panzano ? Parce qu'effectivement, je trouve quand même que la viande de cheval peut être un morceau, surtout le pavé, le merlan, un morceau assez sec.
Et le gras de Panzano, c'est quoi ?
Et le gras de Panzano, c'est... Alors, on est dans le Chianti, hein, un petit village qui s'appelle Panzano. Panzano, où il y a un boucher qui ne fait pas de cheval, mais qui aime son métier, et qui utilise du gras de cochon, hein, qui l'assaisonne fortement avec du romarin, du sel et du gros poivre.
Vous êtes un des rares restaurateurs à proposer de la viande de cheval à votre carte. Et vous ne le faites pas qu'occasionnellement, vous en avez, je crois, tous les jours.
Toute l'année, oui, j'en fais toute l'année. Moi qui ai une clientèle pas mal d'Américains, d'Anglais, d'Australiens, je trouve que confronter un morceau de cheval à ces gens, c'est quand même assez sympathique.
Vous faites manger du cheval à des Américains,
ouais,
ou des Britanniques?
Bien sûr. Aller au restaurant, c'est aussi découvrir quelque chose.
Mais je pensais que pour un Britannique, c'était totalement hors de question de manger
du cheval, l'animal noble par excellence.
Pour le français aussi, hein. Pour certains français, c'est la même chose.
Le grand mystère de cette histoire, Didier Nourisson, c'est comment le tabou s'installe-t-il dans notre Occident chrétien, disons.
Alors, effectivement, la viande de cheval ne fait pas partie des interdits religieux classiques. Je dirais que ça s'est installé, ce tabou-là, d'une manière extrêmement pragmatique. Au 8e siècle, après Jésus-Christ, le pape Grégoire III est sur le trône de Saint-Pierre. Et voilà qu'en 732, la fameuse année de Poitiers et de Charles Martel, qui repousse in extremis les Arabes, comme on le sait, Grégoire III, en 732 justement, va prononcer un interdit de la consommation de viande de cheval. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les barbares, les païens donc, consomment du cheval et que dès lors, consommer du cheval, ça veut dire être païen.
Les termes exacts de l'interdiction sont quand même assez singuliers. Grégoire III déclare que la viande de cheval est immonde et exécrable. Alors, c'est un procédé pour suggérer qu'elle serait insalubre et dangereuse ou...
Non, c'est une époque où la santé se confond avec le salut. L'importance, et surtout pour un pape, bien sûr, c'est de conduire les croyants à la vie éternelle et non pas à une espérance de vie terrestre prolongée. Donc ces adjectifs soulignent en quelque sorte l'impureté qu'il y a, le sacrilège qu'il y a même à rompre l'alliance des hommes avec Dieu si dès lors ils consomment des aliments impurs. Ça, c'est très important de bien imaginer qu'on est en chrétienté, c'est-à-dire donc dans un monde où tout passe dans une relation verticale des hommes à Dieu et non pas dans une relation horizontale des hommes entre eux.
François Cigaud, anthropologue.
Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdiction sur la viande de cheval comparable à ce qu'on trouve dans certaines religions, sur le porc ou sur d'autres animaux. Il n'y a pas d'interdit. Il y a juste un phénomène de non-consommation. On n'en mange pas. Enfin, on n'en mangeait pas.
Et alors, pour quelle raison est-ce qu'on s'en est éloigné ?
J'en sais rien. Alors, on peut chercher dans les archives de la religion chrétienne. On va trouver quelques bricoles sur la viande de cheval.
Oui, il y a plusieurs papes au 8e siècle qui semblent intervenir à ce sujet.
Qui semblent intervenir, mais si vous voulez, dans la masse... D'abord, c'est pas parce qu'un pape intervient à cette époque, le pape n'est pas infaillible, et c'est pas parce qu'un pape donne son opinion que ça devient un dogme, ou que ça devient une loi de l'Église. Donc il faut faire attention. Si on cherche bien, on va trouver deux ou trois papes qui ont dit des choses. Alors il y a un pape notamment qui a dit, qui a condamné la consommation d'un certain nombre de bestioles, y compris les chevaux sauvages. Alors s'il dit les chevaux sauvages, ça veut dire que les chevaux domestiques n'étaient pas interdits.
Apparemment, le pontife dont vous parlez, qui s'appelle Zacharie, François Cigaud, interdit pêle-mêle le jais, la corneille, la cigogne, le castor, le lièvre et effectivement le cheval sauvage.
Oui, mais c'est son opinion personnelle. À lui, ça n'est pas répercuté. Et de toute façon, ça n'est absolument pas compatible avec la doctrine générale de l'Église qui n'admet aucun interdit alimentaire. Et c'est même sur ce plan-là que s'est produite la séparation réelle entre le christianisme primitif et le judaïsme. Vous avez un songe de saint Paul dans les Actes des Apôtres qui voit sur une nappe toutes sortes d'animaux, y compris les animaux interdits, et une voix qui lui dit « Mange, tout ça appartient au Seigneur, il n'y a pas de distinction à faire. »
Ainsi que l'a rappelé Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, par toute la terre, à une époque ou à une autre, on a fait usage de la chair du cheval. En ce qui concerne la France, on a cessé d'en faire usage au 8e siècle, pour des considérations religieuses qui n'existent plus aujourd'hui. Pendant une longue période de 1000 ans, on ne se préoccupa plus guère de la viande de cheval, ou au moins les chroniques et l'histoire n'en font plus guère mention. Mais à la fin du XVIIIe siècle, Parmentier, qui avait propagé la pomme de terre, Huzard, vétérinaire distingué, Parent du Châtelet, savant philanthrope, le baron Larrey, illustre médecin militaire, etc., s'efforcèrent de faire ressortir les avantages de l'hypophagie mais sans succès. Tente et puissante l'aveuglante routine. Émile de Croix, Avantage de l'hypophagie, 1895.
Ça n'a pas été sans mal, ni tout de suite, parce qu'il y a eu, des résistances. Les résistances venaient principalement de deux catégories de population, principalement les cavaliers, notamment les régiments de cavalerie étaient le refuge des aristocrates, qui considéraient que le cheval était le moyen de leur pouvoir et l'insigne de leur statut privilégié. Et donc, considéraient qu'on ne pouvait pas manger ce cheval comme un vulgaire bœuf, mouton ou porc. Et alors, la deuxième catégorie sociale qui était un peu réticente à la conservation de viande de cheval, c'était les catégories très populaires, pour qui le cheval, non plus de selle, mais de trait, était un compagnon de travail. Et finalement, la consommation du cheval a commencé dans les milieux de la petite bourgeoisie, un peu près de ses sous, et qui n'avait pas de point de vue très arrêté sur le statut du cheval, et qui en avait très peu fréquenté. Donc c'est par là que ça a commencé.
L'un des premiers promoteurs ou propagateurs de la viande de cheval est le baron Larrey, qui est médecin-chef des armées de Napoléon. Je crois qu'il commence à s'exprimer sur ce sujet vers 1799 ou quelque chose comme ça.
Larrey, effectivement, courtisan fidèle de l'empereur Napoléon Ier, va inviter, en quelque sorte, les soldats de l'empereur à consommer du cheval. Ça permettait de tenir le coup dans une campagne de Russie qui était pour le moins sanitairement délicate.
Il n'en reste pas moins que pour un militaire, à cette époque-là en tout cas, tuer et manger du cheval, c'est un peu trahir un compagnon d'armes, Didier Nourisson.
Oui et non. C'est aussi ingérer en soi quelqu'un qui vous est déjà très intime. Hein. Moi, je suis cavalier, je ne vois pas de gravité, en quelque sorte, au fait de pratiquer une espèce de cannibalisme de fraternité, hein, surtout en situation d'urgence. Hein. Alors, je reviens un petit peu sur le 19e siècle, parce qu'effectivement, c'est le grand siècle, en quelque sorte, de la viande de cheval. Après l'Empire, on va avoir en France un mouvement philanthropique qui veut s'intéresser au peuple à des fins un peu productivistes, hein, disons-le franchement. Et cette philanthropie va développer un courant médical, sanitaire, que l'on a appelé l'hygiénisme, qui visait donc à améliorer les qualités de, comme on disait aussi à l'époque, de la race humaine, ou française même. Et cette montée du mouvement hygiéniste va se manifester aussi par la création, bien sûr, de la Société protectrice des animaux dans les années 1850. Cette Société protectrice des animaux va être l'une des plus ardentes à ce moment-là à promouvoir la viande de cheval.
Un des propagateurs de la viande de cheval, si ce n'est le principal, à savoir Émile de Croix, écrit quelque part « La consommation de la viande de cheval poursuit deux buts, l'un philanthropique, l'autre philippique, c'est-à-dire au bénéfice des chevaux ».
Oui, alors Émile de Croix, voilà l'homme de la viande de cheval, en quelque sorte l'hypophage majeur en majuscule. C'est un militaire. Il a fait toutes les campagnes.
Sébastopol, puis Solferino.
Voilà, donc des guerres extrêmement dures, comme on le sait. Et au cours de ces campagnes, il s'est aperçu que, quand on n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent, encore une fois, le recours à la viande de cheval s'imposait.
Émile de Croix est un homme extrêmement opiniâtre, obstiné. Son combat n'est pas facile parce que c'est terriblement compliqué de faire admettre dans les mentalités de l'époque que ça pourrait avoir bien des avantages que de manger du cheval.
Oui, c'est un têtu, sinon même peut-être un entêté. On a même menacé de le mettre en cabane, hein, comme s'il était fou ou dangereux. Mais il ne s'est jamais arrêté, il n'a jamais arrêté ce combat-là. Et finalement, ça a payé. En 1865, il invite tous les gens
situation élevée qu'il connaît, il les invite à un repas hypophagique pour essayer de valoriser la viande de cheval et de créer une espèce de groupe de pression en faveur de la viande de cheval.
Banquet anglo-franco-américain au Grand Hôtel à Paris. Menu. Consommer de cheval à l'ABC. Saucisson de cheval aux pistaches syriaques. Terrine de foie maigre chevaline. Turbo à la sauce arabe. Filet de cheval rôti aux pommes à la crème. Aloyau de mulet à la centaure. Langue de cheval, d'âne et de mulet à la troyenne. Fricando d'âne brisé. Filet de mulet mode à la gelée. Sorbets au marasquin. Poularde truffée. Salade. Cèpe sautée à l'huile chevaleresque. Asperges en branche à la crème. Croûte contre préjugés. Desserts assortis. Madère, eau sauterne, médoc vieux en carafe, Saint-Émilion, pommard, champagne frappé, café, liqueur.
Je regrette déjà de n'y avoir pas participé.
Mais vous avez participé, François Landrieux, à quelque chose de nettement plus récent et d'un peu comparable. Vous avez écrit un article intitulé « Ce soir-là, nous mangeâmes un cheval ».
Oui, 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 ça c'est un joli souvenir. J'ai fait ça en compagnie du président des bouchers chevalins de France, M. Beaubois, qui nous avait organisé un superbe dîner où nous avons effectivement goûté 17 plats ou préparations de viande de cheval. Et il y avait deux choses extraordinaires, sincèrement deux choses extraordinaires. L'une était une côte de jeune âne. Moi, j'en avais jamais mangé auparavant. Et bien, ça avait la qualité et la finesse et l'élégance du veau de lait de Corrèze. Et nous avons fini par une cervelle de cheval meunière. Je ne vous cache pas que j'étais un petit peu terrifié quand même, parce que ça, la cervelle de cheval, je ne voyais pas comment ça allait se passer.
Et alors,
c'était très très bon, c'est d'une finesse à fond dans la bouche, ça s'évanouit dans la bouche. Et c'était d'une légèreté, d'un goût très noisté, très, très nuancé. C'était formidable. Ce qui était moins formidable, c'est la tête des gens qui nous entouraient dans le restaurant où on faisait ce repas. Quand ils ont vu arriver la cervelle de cheval toute tremblotante sur le plat, là, j'ai vu des dames qui se cachaient derrière leur mouchoir.
Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur. Un morceau de cheval,
s'il vous plaît. Oui, si tu entres la tête et la queue.
J'ai perdu au tercé.
J'ai perdu au tercé. Un bout de bavette, vous aimez?
Mais c'est parfait, vous laissez.
Bon, on va pas faire de détails.
Je m'en débrouillerai. Si j'ai de quoi payer.
10,40.
10,40, ah quand même.
Ah bah oui. Hein.
Michel Beaubois, vous êtes président de la Fédération de la boucherie hypophagique de France et vous êtes naturellement boucher chevalin au départ. Est-ce qu'on peut tenter de décrire les caractéristiques de cette viande en matière de goût et de texture?
La viande chevaline, en fait, est un produit assez élastique, mou, qui n'est pas rigide. Mais elle n'est pas rigide, tout simplement, un peu comme une viande chaude. Au niveau de la flaveur, c'est une flaveur qui est un petit peu sucrée.
Est-ce que si on vous met deux assiettes, l'une contenant un steak de bœuf et l'autre un steak de cheval, vous êtes certain de faire la distinction?
Même les yeux bandés. Rien qu'au toucher.
Ah oui ?
La fibre musculaire n'est pas pareille. C'est comme si vous aviez une corde à bateau et puis un fil de soie. Enfin, j'exagère, mais c'est ça.
Avis à la population, le steak haché de cheval est le meilleur du monde. Car la fibre est extrêmement soyeuse, extrêmement tendre, très flatteuse de goût et de texture. Elle est très humide, si je veux dire, une espèce d'humidité naturelle dans la viande. C'est un produit tout à fait formidable. D'ailleurs, tous les gastronomes, même ceux qui sont pas passionnés par la consommation de cheval reconnaissent que le tartare de cheval l'emporte sur tous les autres. Le tartare, c'est le cheval. Je suppose que les hordes mongoles qui débarquaient d'Asie centrale il y a quelques années, en mettant de la viande sous leur selle, avaient dû expérimenter la chose quand même.
Carole Ferret, vous êtes ethnologue et vous nous emmenez en Yakoutie. Yakoutie, c'est très loin, c'est en Sibérie nord-orientale. Mmh. Et c'est un pays peuplé de Yakoutes, peuple pour lequel le cheval a une importance considérable.
En fait, oui, la Yakoutie, c'est extrêmement grand. C'est cette fois la France, on la connaît assez peu ici. C'est le pays le plus froid de l'hémisphère nord. Donc c'est là qu'on enregistre des records de froid jusqu'à moins 70 degrés. Et pour les Yakoutes, qui sont un peuple turcophone qui vient de Sibérie du Sud, le cheval effectivement a une grande importance. Quand les Cosaques, au XVIIe siècle, ont conquis la Sibérie et la Yakoutie notamment, ils ont dit avoir trouvé un peuple du cheval. Parce que pour eux, c'était la caractéristique de ce peuple-ci. Bien qu'en fait, les Yakoutes élèvent également des bovins et des rennes.
Et comme la plupart des peuples cavaliers ou équestres, les Yakoutes vénèrent, on peut dire, le cheval comme animal. Et de surcroît, ils le mangent.
Oui. En fait, pour eux, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'aimer les chevaux et d'aimer manger du cheval. Pour eux, ça va ensemble. Ils sont à la fois donc hippophiles et hippophages. Ce mouvement s'est accéléré au cours du XXe siècle où autrefois le cheval avait une utilisation assez variée, très polyvalente, utilisée à la fois pour le travail et pour l'alimentation et même pour faire des habits et même pour la fourrure puisque là-bas c'est un animal à fourrure. Au cours du XXe siècle, donc, cette utilisation très polyvalente du cheval s'est restreinte vers une utilisation plus bouchère de l'animal. Donc, aujourd'hui, le cheval yakout est surtout élevé pour sa viande.
Parce que les travaux et les transports sont mécanisés,
oui.
Tout simplement.
Il est encore parfois monté ou attelé au traîneau, mais c'est vrai que sa première utilisation, c'est la viande. Alors, ce qu'il faut dire aussi de l'élevage yakout du cheval, c'est qu'il est extrêmement extensif, c'est-à-dire que le cheval est élevé en liberté toute l'année, même par les températures extrêmement froides dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Et avec assez peu de contact avec les hommes.
Avec assez peu de contact avec les hommes.
Semi-sauvage.
Et c'est les chevaux d'eux-mêmes qui se dirigent en fonction des saisons, qui vont d'une pâture à l'autre, en liberté, l'année durant.
Et on mange du cheval à quelle occasion, à quel rythme en Yakoutie? Et quels chevaux mange-t-on?
On en mange particulièrement à l'automne, au moment de ce qui était autrefois, donc sous le régime soviétique, la fête de la Révolution. Début novembre, il y avait un grand abattage des bêtes et on mangeait beaucoup de cheval à ce moment-là. Mais en fait, on en mange toute l'année, puisque évidemment, dans ce pays-là, il n'y a aucun problème de conservation, puisque c'est la merzlota, c'est-à-dire le sous-sol est congelé en permanence. Il suffit de mettre la viande dans une cave et elle reste gelée toute l'année.
On mange beaucoup de cru gelé en Yakoutie.
Et alors, on mange effectivement du cheval cru gelé par petits bouts qui ressemblent un peu à des lardons, quoi, avec du gras et de la viande, qui est considéré un peu comme une friandise. Pour eux, ce qui est important, c'est le gras, évidemment, pour lutter contre le froid. C'est le gras qui permet de survivre pour eux. Et il y a plein d'expressions. C'est pas du gâteau pour un Yakout, c'est pas du gras. Enfin, le gras, c'est ce qu'il y a de meilleur.
Et de préférence le gras de cheval.
Oui.
Vous notez, pour parodier notre célèbre « Tout est bon dans le cochon », pour les Yakoutes, dans le cheval, tout est régal.
Oui, parce qu'on mange effectivement toutes les parties du cheval, et pas seulement le muscle, mais aussi les abats. La majorité des chevaux sont abattus très jeunes, vers l'âge de 6 mois, au premier automne.
Selon un procédé assez spectaculaire.
C'est-à-dire que les chevaux sont abattus par arrachage de l'aorte, c'est-à-dire qu'on ouvre le poitrail au niveau du diaphragme, on introduit la main et on arrache l'aorte. Et c'est un procédé qui permet de ne pas faire écouler le sang et après on recueille le sang à l'intérieur de la cage thoracique pour faire du boudin.
Mais lorsqu'on abat les poulains, c'est la liesse, ça se fait dans la joie.
Disons que c'est ambivalent. D'un côté, il y a quand même un certain regret au fait d'abattre les animaux, c'est-à-dire que dans ce que rapportent les ethnographes au 19e siècle, il y avait tout un discours de justification avant l'abattage qui disait « ce n'est pas moi qui va te tuer », enfin, qui visait à déculpabiliser celui qui allait abattre les animaux.
Monsieur, bonjour.
Bonjour, je voudrais trois beaux anglais, s'il vous plaît, vous avez l'anglais ?
Non, c'est le chevaline, vous ?
Oui. Il y avait un boucher de bœuf un peu plus haut, là.
D'accord, je vais aller par là-bas, il y en a un.
Ah, non ? Pierre Le Pelletier, boucher chevalin.
C'est un peu particulier, la viande de cheval, parce que il y a pas mal de gens qui n'en mangent jamais.
Il y en a beaucoup qui n'en mangent pas parce qu'ils se représentent l'animal, hein. C'est psychologique, hein. C'est souvent comme ça. Hein. Si on leur en donne qu'ils ne le savent pas, ils le mangent, hein. Ils trouvent ça très bon. Mais il ne faut pas leur dire que c'est du cheval. Parce que bon, ils se représentent l'animal, et l'animal, bon, c'est une bête qui est super. Alors donc, voilà, quoi. Ils veulent pas en manger pour ça, hein, c'est pour ça. Hein. Parce que bien souvent, les gens, ils disent que ça a un goût fort, alors que ça n'a pas de goût fort, mais ils ne savent pas trop comment c'est, quoi. Il y en a beaucoup qui ne mangent pas parce que, justement, c'est l'animal. Alors, bah, c'est comme ça. Hein. Comme on dit, pas de tout pour faire un monde. Hein.
Pour l'intérêt et la considération de la société protectrice des animaux, pour la satisfaction des vrais zoophiles, je proteste de toute la force que me donne ma conscience contre l'hypophagie, contre ce moyen cruel de mettre fin aux souffrances des chevaux. Et, comme il est plus généreux de combattre les forts que d'engager les faibles à se résigner à leur triste sort, je viens vous dire, nous devons demander, pour les chevaux vieux et infirmes, pour des animaux envers lesquels on ne saurait trop avoir de sollicitude, une autre fin que la massue et l'étal du boucher. De l'hypophagie dans ses rapports avec la protection due aux animaux. 1864.
Notre comité de promotion de la viande de cheval, de la viande chevaline,
Didier Nourisson,
dont le secrétaire est Émile de Croix, va connaître un réel succès puisque les premières boucheries chevalines ouvrent à Paris quelques mois après la constitution du comité. En 1866, toujours dans les quartiers plutôt populaires de la capitale. C'est Place d'Italie, le 9 juillet 1866.
Ça n'empêche pas la bourgeoisie de manger quelquefois du cheval, soit à son insu, soit en faisant semblant de ne pas le savoir.
Alors, la bourgeoisie mange du cheval, oui, si elle appartient au milieu du Jockey Club ou à la société d'acclimatation, ou etc. Mais elle le fait quand même assez discrètement, hein, faut l'avouer. Elle se mettra vraiment à manger du cheval sous l'emprise de l'urgence au moment du siège de Paris, hein, entre septembre 1870 et janvier 1871.
Un affreux moment de l'histoire, mais une aubaine pour l'hypophagie.
Voilà, c'est exactement bien résumé, hein. Paris assiégé, c'est Paris mort de faim. Il existait dans Paris assiégé 100 000 chevaux. C'est vous dire l'importance du cheval, y compris en ville. À la fin du siège, il n'en restera plus que 40 000. Hein. C'est vous dire donc si l'on a tombé du cheval et mangé du cheval.
La viande de cheval est entrée à présent dans l'alimentation des grandes villes. Le préjugé qu'on avait contre elle a presque disparu. Néanmoins, je dois reconnaître que chaque boucherie chevaline a une clientèle spéciale, toujours la même. C'est ainsi qu'il m'est arrivé de regarder, un matin vers 10 heures, un étal qui passe pour être un des meilleurs de la capitale et d'admirer le nombre et la qualité des cuisinières qui venaient là, tous les jours, depuis de nombreuses années, acheter, à l'insu de leur maître sans doute, de la viande à rôtir. Les morceaux, je dois le reconnaître, étaient de première qualité, bien préparés, piqués et bardés comme dans les grandes boucheries de bœuf. Ces grandes cuisinières faisaient sauter l'anse du panier avec désinvolture, il est vrai, mais donnaient à la table qu'elles étaient chargées de ravitailler des viandes tendres et bonnes sur lesquelles, j'en suis certain, aucun reproche n'a pu être formulé. D'autres boucheries ont une clientèle de petits employés, d'ouvriers, de fonctionnaires modestes, voire même de femmes mariées, qui dès l'aube vont vivement chercher des beefsteaks, qu'elles font ensuite passer sur la table comme viande de bœuf, se constituant ainsi avec adresse un joli bénéfice en vue d'achats plus futiles et plus gais. Louis Villain, Animaux et viande de boucherie, 1910.
Pendant, je m'excuse de vous arrêter un moment, monsieur Val. Monsieur Rayon voudrait faire un peu de statistiques.
Pour bien faire ressortir cette progression, je préciserai qu'il a été abattu aux abattoirs de Vaugirard en 1939, 48 000 chevaux. En 1950, 76 000. 51, 80 000. 52, 82 000. Comme vous voyez, la progression est constante.
Mais je crois qu'un des buts du concours, ce doit être également de souligner la qualité de cette viande.
Oui, le rôle de la boucherie chevaline a été aidé aussi par le fait que l'agriculture nous apporte d'année en année une qualité de chevaux allant en s'améliorant, comme le public pourra le constater en assistant au concours de chevaux de boucherie ce jour, et particulièrement à 14h, au marché aux chevaux de Vaugirard de la rue Brancion.
Depuis que la consommation de viande de cheval est bien établie en France, et jusque dans les années 50, la viande de cheval était considérée à l'époque comme la plus saine, qu'il fallait en donner aux enfants.
C'était la viande des pédiatres.
C'était la viande des pédiatres, et pour la raison que le cheval n'avait pas la tuberculose, il était indemne de tuberculose. Et longtemps, j'allais dire moi-même, le régime consistait à mélanger de la viande de cheval hachée dans la soupe du soir. Je ne me souviens plus le goût que ça avait, mais je m'en souviens sans déplaisir en tout cas. Le cheval a été très abondant à partir du moment où on a commencé à avoir à implanter des machines agricoles. Le tracteur a tué le cheval, si j'ose dire. Et donc pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, disons à partir des années 20, pratiquement, et jusqu'aux années 60, la viande de cheval était abondante et les prix étaient donc relativement bas. Et la viande de cheval a commencé à manquer et les marchands de chevaux, de boucherie, se sont tournés vers l'importation. Au début, c'était très facile et était très bon marché. Puis progressivement, comme le marché se créait, que les flux commerciaux existaient, eh ben, les marchands de chevaux canadiens ou polonais, ils sont comme les autres. Ils ont vu qu'ils avaient des bonnes affaires à faire et les prix ont augmenté. Quand vous interrogez des bouchers chevalins français à l'heure actuelle, ils vous disent que ce n'est pas la clientèle qui nous manque, c'est la marchandise.
À la porte de Vanves, il y a aussi les abattoirs de Vaugirard. L'établissement municipal de Vaugirard est malgré l'emblème du taureau spécialisé dans l'abattage des chevaux.
Ordonnance concernant l'abattoir hypophagique Brancion. Paris, 15 juin 1905. Article 1er. Les solipèdes, amenés à pied à l'abattoir hypophagique de la rue Brancion, seront toujours conduits au pas et sans mauvais traitement.
Les outils de travail sont, suivant les animaux, le jonc ou roseau, le merlin anglais et le pistolet de Baer dont l'emporte-pièce foudroie à l'animal par percussion.
Les animaux gravement blessés ou incapables de marcher seront transportés en voiture. Les plus grandes précautions seront prises pour leur éviter toute souffrance, soit pendant leur transport, soit au moment de leur descente de voiture. Article 3. Tout animal de boucherie entrant à l'abattoir ne pourra en sortir qu'à l'état de viande morte.
Le délicat ouvrage du fleurage à la lancette, couteau acéré comme un rasoir, n'est pas sans danger. C'est en fleurant un cheval qu'Ernest Breuillet s'est tranché l'artère fémorale. Il a dû être amputé de la jambe droite.
Article 15. Le transport des viandes et abats ne pourra s'effectuer de l'abattoir au lieu de vente ou de fabrication que dans des voitures disposées de façon à soustraire au public la vue du chargement.
Ce qu'on observe, alors ça ce sont peut-être des considérations plus anthropologiques qu'historiques, Didier Nourisson, c'est que la boucherie chevaline est une activité relativement discrète et pudique. Dans une boucherie, on peut tout à fait se permettre d'exposer une tête de cochon ou une tête de veau, même non désossée, non ficelée.
Alors que ça n'est pas transposable du tout au cheval. Jamais vous ne verrez à l'étal d'un chevalin la tête d'un cheval.
Oh, moi je me rappelle, il y a quelques années, avoir vu à Saint-Étienne, il existait encore une boucherie chevaline. Aujourd'hui, il n'en existe plus. Je me rappelle avoir vu une tête de cheval exposée à... Et le boucher n'était pas honteux, en quelque sorte, de son activité. Simplement, il fallait toujours mettre boucherie chevaline pour distinguer ces activités-là des boucheries simples. Dans une boucherie chevaline, on ne vend que du cheval, alors que dans une boucherie simple, ben, on pourrait vendre du cheval, mais on ne le fait pas. Alors donc, il y a une espèce de hiérarchie, peut-être.
De relégation, presque.
Presque une relégation, mais ça, ça tient au fait que dans les années 1980, vous avez une bronca, en quelque sorte, qui monte contre la consommation de viande de cheval. Est fondée donc la Fondation Brigitte Bardot en 1986, et en 1992, cette fondation est déclarée d'utilité publique. Et elle va aussitôt donc alerter le grand public sur les conditions d'abattage des chevaux. Et je pense qu'ils avaient raison de le faire, parce qu'on abattait les chevaux dans des conditions très, très douteuses. Et progressivement, cette fondation Brigitte Bardot va aller jusqu'à remettre en cause la consommation de viande de cheval en traitant les consommateurs, en quelque sorte, de cannibales ou, en tous les cas, d'individus peu recommandables, puisqu'ils osent manger leurs compagnons.
C'était la campagne « Le cheval, comment l'aimez-vous ? En ami ou en rôti, c'est ça ?»
Oui, voilà, c'était ça, exactement, ami ou rôti, mais en tous les cas, il fallait choisir, en quelque sorte, dans quel camp on se situait.
Vous mangez pour vos amis.
Jean-Pierre Digard.
C'est là, vous voyez, sur quoi il joue. C'est en jouant la fibre sensible, la fibre de la relation étroite, presque amicale, entre l'humain et les animaux domestiques, qu'on introduit un argument moral. Mais quand le cheval était un animal de travail, cet argument n'existait pas. Le seul argument qu'il pouvait jouer, c'était le respect de l'animal. C'est un peu l'argument qui veut aller loin ménage sa monture. On respectait le cheval dans l'ancienne culture pour qu'il puisse servir. Maintenant, on ne respecte plus le cheval, on l'aime. Et finalement, le statut du cheval, depuis qu'il est passé dans la sphère, qu'il est passé de la sphère de l'utilitaire dans celle des loisirs, son statut tend vers celui de l'animal de compagnie. Or, la définition universelle de l'animal de compagnie, c'est qu'un animal de compagnie ne sert à rien d'autre qu'à la compagnie de son maître. Donc si le cheval, par malheur, devenait totalement un animal de compagnie, il ne pourrait servir à rien. Or, le cheval est quand même un animal encombrant, qui présente beaucoup plus d'inconvénients que le chien et le chat, par exemple. Le cheval ne contrôle pas ses sphincters. Et donc, c'est un animal qui ne pourra jamais rivaliser en tant qu'animal de compagnie face au chien et au chat. Donc, à terme, c'est un animal qui disparaîtra de notre univers si, il devient uniquement un animal de compagnie. Donc, ceux qui militent contre l'hypophagie font un calcul à court terme et ne sont pas, à mes yeux, de véritables amis du cheval, car ils travaillent à les disparitions de cheval de notre société.
Après le cheval viendra le chien, sans doute, pour peu que sa chair s'y prête. Et qui sait si l'on ne trouvera pas avantageux de redescendre à l'anthropophagie ? Ce qu'il y a de certain, c'est que les esprits qu'aucune considération morale n'arrête et qui ne voient que la matière chimique et l'intérêt personnel tombent souvent dans les plus déplorables aberrations. J'en connais qui prétendent arriver aux vivisections humaines et supprimant l'usage sacré de la tombe, jeter comme engrais à la production agricole la chair et le sang de leurs concitoyens. Docteur Robinet, Lettre sur l'hypophagie, 1864.
Aujourd'hui, si vous ne consommez pas la viande de cheval des races lourdes, ce qu'on appelait avant les races de travail, les races de trait, donc c'est le percheron, c'est le cheval breton, c'est l'ardennais, etc., Eh bien, le boulonnais, bien entendu,
bêtes énormes.
Toutes ces superbes bêtes. Eh bien, si on ne les consomme pas in fine en viande de boucherie, elles vont disparaître. Car leur utilisation n'a plus de justification économique. On peut débarder un peu en forêt. Il y a une ou deux compétitions de hard labour, je ne sais plus comment ça s'appelle, où on fait tirer à ces pauvres chevaux des poids énormes. Mais tout ça n'a aucune rentabilité économique. Donc, les éleveurs de chevaux ne peuvent pas entretenir un cheptel qui n'a plus de justification. Il n'en a plus qu'une aujourd'hui, après avoir effectivement animé les fêtes et les foires, et bien c'est qu'on le mange à la fin.
Il y en a une qui aime la grande musique, orque, flûte et compagnie. Elle aime monter à cheval, elle aimerait les Stendhal. Quant à l'autre, elle aime l'accordéon, flonflon et compagnie. Elle aime la viande de cheval, le potiron, les cotillons. Elles sont snob toutes les deux, mais je les gomme. Laquelle est la plus snob?
Hypophagie. Avec Michel Beaubois, président de la Fédération de la boucherie hypophagique de France, Jean-Pierre Digard, anthropologue, auteur d'une histoire du cheval chez Actes Sud, Carole Ferret, ethnologue, François Landrieux, président de l'Académie de la viande, Otis Lebert, restaurateur, Pierre Lepelletier, boucher chevalin, Didier Nourisson, historien, enseignant à l'Université de Lyon 1, François Cigaud, anthropologue. Texte lu par Nathalie Duhong. Extrait du film « Le sang des bêtes » de Georges Franju, 1949. Merci à la Bibliothèque centrale du service de santé des armées, à celle de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, à Célia Paschetti d'Interbay-Véquin, au Taxi jaune rue Chapon dans le 3e et au Petit Canon rue Legendre dans le 17e à Paris. Archivina Aurélie Marsay et Annabelle Miaille, prise de son Étienne Leroy, mixage Philippe Palares. Hypophagie, Anne Fleury, Olivier Chaumel.
Pour me dire laquelle des deux est la moins snob des deux.
Nous continuons demain cette émission et cette semaine consacrée à l'histoire du cheval dans la Fabrique de l'Histoire avec Daniel Roche, puisqu'il nous accompagne toute cette semaine. Il est historien de cette culture équestre et il vient de publier le 2e tome de son histoire de la culture équestre. Demain, il rencontrera, avec Anaïs Quien qui a préparé cette semaine avec nous, il rencontrera Mathieu Flonneau, historien des transports, de la mobilité, avec lequel il discutera du cheval en ville. Vous pouvez bien évidemment écouter cette émission pendant 500 jours sur le site www.franceculture.fr. Vous pouvez la télécharger pendant une semaine. Laissez vos commentaires sur ce site. Nous écrire également à fabrique@radiofrance.com. Et puis, si vous le souhaitez également, discuter avec nous sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire sur un réseau social bien connu.